Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de Par les temps qui courent de la semaine, tous les soirs, une heure de conversation, ce soir avec Flavien Berger.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler papi.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Flavien Berger.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Imaginez une radio faite juste pour vous, mais vraiment juste pour vos oreilles, parce qu'on raconte ça à longueur de publicité, des choses qui sont faites juste pour vous, mais ce sont des mots en toc et les choses, elles sont souvent surtout faites pour le plus de monde possible. Eh bien, vous avez réalisé un disque, Flavien Berger, juste pour chacun et chacune d'entre nous, avec des plages pour freestyler tranquille le soir sur son vélo, dans sa chambre ou dans un camion, avec des histoires qui nous racontent comment ce serait un moment de concert calme, très calme, zébré de stroboscope, comment telle ou telle ligne de basse fonctionnerait merveilleusement bien en son système, avec une voix, votre voix, amie, qui partage simplement le plaisir de faire du son et d'en écouter affalé sur la moquette. Ce disque s'appelle Radio Contretemps, mais pour moi c'est aussi un film et c'est le seul que j'ai beaucoup regardé. Un journal, une radio, un post-it amoureux, je trouve qu'il est très beau. Il est sorti sur Pan-European Recording. Bonsoir à vous, Flavien Berger.
Bonsoir.
Radio Contretemps, c'est ce disque-là, c'est le dernier. Il vient après Contretemps, il vient après d'autres choses et il vient aussi après Léviathan en 2015.
Je crois.
C'est ça. Et Radio Contretemps, c'était en juillet 2019. Vous êtes là pour annoncer la suite d'une grande tournée qui passera notamment par Besançon le 27 septembre, 25 octobre, Vendôme dans les Rocomotives, à Lyon le 6 novembre au Transbordeur, à Nîmes au Paloma le 7 novembre, le 14 novembre à Bordeaux, au Rocher de Palmer, à Dijon, Massy, ensuite, et le 2 et 3 décembre au Casino de Paris. On commence ?
On commence.
Oh, bonjour. Radio Contretemps, la radio des morceaux qui n'existent pas encore. Résonance de la salle à manger de la barrière, libellule en visuel. Je vais vous faire écouter des morceaux et vous dire ce que j'aimerais en faire.
On en rêve, hein, des jingles comme ça pour notre propre radio, Flavien Berger. Est-ce que vous pouvez raconter la manière dont il est né, dont il commence ce disque-là ?
Il commence en même temps que le disque qui le précède, Contretemps. On appelle souvent une sortie de phase B, des morceaux qui n'ont pas survécu et qui n'ont pas été sélectionnés dans l'opus. Donc phase B, je trouve ça un petit peu péjoratif, ça fait un peu côté obscur de la lune, quoi. Il y a un truc par défaut. Or en fait c'est pas du tout ça, c'était que c'était pas des morceaux que j'aimais pas, c'était des morceaux qui allaient pas dans le ton de Contretemps, mon deuxième album. Et avec l'été, on a voulu, mon label et moi, sortir quelque chose pour dire au revoir avant la reprise, ce que j'aime bien faire en fait. Quelque chose de lâché, sans promotion, sans force sans devoir absolument le soutenir, comme j'ai toujours fait, comme j'ai fait au début, quand on avait des plateformes internet où à minuit on postait son morceau et puis le lendemain on regardait si des gens l'avaient écouté, gratuitement, sans industrie. Et en fait, ces morceaux-là, je les avais faits en même temps que Contretemps et je les commentais souvent à mes proches, ceux qui allaient écouter les maquettes, ceux dont j'avais besoin de l'avis, ceux que je voulais surprendre, donc mon label, mes amis, mes futurs collaborateurs pour les images, les pochettes, les clips, puis voilà, l'entourage créatif proche. Et comme j'ai toujours ce fantasme de faire des radios, j'ai une pratique de radio secrète chez moi où je fais des cassettes audio où je m'adresse à des gens qui n'écouteront jamais. Voilà, et ça a été très naturel et en fait ça a été pour moi aussi le moment de me dire ces morceaux ils sont finis et ils sont finis dans leur état de pas fini et accompagnés comme ça d'un commentaire audio que j'aimais bien sur les DVD, mais là, sans l'image, il y avait un côté absurde qui m'amusait aussi. Voilà.
Et en fait, ils sont pas moins finis que les autres morceaux. Enfin, c'est ce que je me suis dit, moi, en écoutant ce disque, c'est que plus ça allait, et plus je me disais, mais non, c'est pas... En fait, c'est pas tant un disque... comme exactement vous venez de le dire, c'est-à-dire suspendu, livré comme ça, sans trop de travail. En fait, c'est peut-être un disque qui est très abouti. Peut-être qu'au contraire, dans son hétérogénéité, dans la manière dont il cherche pas à séduire par un fil narratif trop fort, etc. Peut-être qu'en fait, il est hyper franc, ce disque-là.
Moi, je me reconnais beaucoup plus, finalement, avec le temps, je crois, dans des disques comme ça. Mais quand je dis fini ou abouti, c'est dans un exercice de musique pop. Ce qui a été un petit peu le rendez-vous que j'ai fait avec ce deuxième album. Là, la pop, c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses, mais qui reste, je pense, un exercice, une certaine école où il y a des cases à cocher.
Ouais.
Vraiment
des cases à causer beaucoup plus en fait, beaucoup plus des cases à causer.
Je voulais. Et voilà. Et en fait, par exemple, après mon premier album Léviathan, j'ai sorti un album qui s'appelle Contrebande et qui aussi est là dans un état de. On n'a pas repensé. Donc la surface est quand même très poreuse, moins douce. Et la porosité, c'est super intéressant parce qu'il se cache plein de choses dedans. Et moi, je redécouvre des morceaux parce que finalement, je les ai moins écoutés que ceux qui ont été produits de manière pop. Et là, on ne voit pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts autour du micro.
Est-ce que vous avez, vous, un goût pour ça, pour ce qu'on a appelé justement les phases B, il y avait aussi quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais parfois dans les albums de rap français, à la toute dernière chanson, si t'attendais, aller peut-être 4-5 minutes, ouais. T'avais des petits... Est-ce que vous étiez client de ça ou vous êtes client de
complètement.
Ça
complètement. Quand j'ai commencé à faire des compilations, que ce soit sur cassette audio, même sur CD gravé et tout ça, je me rendais compte que je faisais des compilations des morceaux informes de ceux qui passent pas à la radio, donc les interludes aussi, beaucoup. J'adorais les interludes, que ce soit dans les albums de rap, comme vous dites, ou dans plein d'autres albums. Les moments où en fait on va pas réentendre trois fois le même refrain, déjà, et puis ceux qui ont peut-être une seule idée.
Mais précisément, il est beaucoup question des idées, parce que je disais, en fait, c'est aussi un album qui raconte ce que ça pourrait être ou raconte ce que ça va être potentiellement. Et donc, je trouve que ça dit la flamme ou la joie que c'est de se dire « Ah, un jour, je me suis dit que ce serait avec cet instrument-là, je me suis dit que ce serait cette ligne de basse-là, et que presque ça suffit
oui.
de le dire. »
Oui. C'est exactement, c'est le momentum en fait. C'est aussi, par exemple, on prend un instrument témoin et on fait une ligne mélodique en attendant de le faire avec un bon instrument. Or, tout est là, toute l'intention est là, dans sa fragilité et dans son accident aussi. Donc, et c'est drôle parce qu'après, j'ai reçu des commentaires de gens qui me disaient « Ah, j'ai hâte d'entendre ce que ça fera quand il y aura le truc dont tu parles. » Mais ça n'existera pas. Et donc, j'aime parce que le morceau est terminé comme ça, même avec la voix off et tout ça. Donc, c'est ça. En fait, c'est un état figé. J'ai l'impression que ce disque, c'est comme... comme des espèces de dioramas, mais dans la résine, dans un mouvement qui est arrêté, bloqué. Finalement, c'est ça aussi la musique. Mais je le vois comme ça, quoi.
Et il y a moins de joie, il y a plus de joie, ou ce sont juste des joies différentes que faire face à des morceaux, peut-être, en effet, qui sont plus bouclés au sens pop du terme, au sens radiophonique du terme, comme il existe sur Léviathan ou sur Contretemps.
C'est une joie différente. C'est un exercice différent. On a changé. C'est pas la même salle de classe, quoi. Là, on est dans une salle un peu plus fun, avec plus de paillasses pour faire des expérimentations bizarres et peut-être un...
Et plus de rigolos, quoi. Moins d'élèves qui savent très bien faire leur travail.
Oui, ouais. Exactement. Plus les poufs soufflent.
C'est quoi ?
C'est une maison dans Harry Potter que j'ai découvert que j'étais et que j'aime bien un petit peu en parler de temps en temps parce que c'est les nuls. C'est ceux qui arrivent en dernier des classements toujours. Mais c'est les farfelus, quoi. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est un exercice différent. C'est, je m'amuse pas moins en faisant un truc pop qu'en faisant ça, mais j'y tire des choses. En tout cas, je trouve cet exercice plus inspirant pour moi, et je m'y retrouve. Et je pense qu'à un moment, je trouverai le delta entre peaufiner, correspondre et être libre entre guillemets.
On va parler des radios secrètes un petit peu.
Foxy, ici, Cindy, à Victor, Juliette Maritime Mobile, de Foxtrot 8 Alpha Charlie.
C'est à Foxy,
Alors, nous sommes en train de faire une liaison avec un petit bateau construit par deux jeunes Français, Eric et Isabelle, qui sont embarqués il y a à peu près un an. C'est eux que vous entendez, là. Je suis forcé de me taire pour voir s'ils me passent le micro. Voilà, ils me passent le micro. Je change de fréquence. On va voir là, je cherche. Oh, Viviane, alors quelle surprise extraordinaire! OD5VD, c'est Beyrouth. OD5VD de Foxtrot 8 Alpha Charlie. Alors ça, c'est une surprise extraordinaire de t'entendre, Viviane. Alors, un petit QRX, je suis avec un bateau Fox 6 India Victor Juliette Maritime Mobile et je cherchais une fréquence libre. Alors, mes bonnes 88, Viviane, ne quitte pas, là. Et c'est extraordinaire que tu me reçoives si bien parce que mon antenne est tournée vers le Portugal et pas du tout vers Beyrouth, ok?
Oui, c'est parce que tu m'as manqué beaucoup, Marcel. Il y a longtemps que je cherche à t'écouter. Je suis pas très nerveux, mais enfin, regarde les coïncidences. Le hasard fait bien les choses, Marcel. Allez, vas-y, t'appelles ton maritime mobile et puis je t'attends, ok?
Ah oui, oui, ok, oui.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Je suis sûre que je ne suis pas la seule à pouvoir pleurer en écoutant et réécoutant cet extrait de Echo Echo Bravo. C'est un documentaire réalisé par Vincent Deck et qui nous fait entendre cette véritable tentative de liaison radiophonique et l'émotion qu'il y a quand ça fonctionne. Et derrière, c'est un morceau de Exile qui est un beatmaker américain et qui ne travaille qu'avec des bouts justement de radio, quoi, de choses qui passent à la radio. Il a fait deux albums, Radio et Radio AMFM. Nombreux sont les artistes musiciens qui sont fascinés par ça, ou bien aussi des labels. Je pense là à l'instant à Sublime Frequencies qui va chercher dans des radios étrangères une manière de capter l'essence de la vie et de la vitalité musicale. C'est quoi cette histoire de radio secrète et de votre goût pour ça, Flavien Berger?
Alors, la radio, c'est un membre de la famille. J'ai un père qui finalement se démerde pour avoir un poste de radio dans chaque pièce de la maison pour que quand il quitte une pièce, il rephase avec la même fréquence.
Est-ce que c'est toujours la même station?
Ça dépend des heures de la journée et ça dépend des jours de la semaine.
Mais dans chaque pièce, c'est réglé,
le poste est réglé, pardon, sur la
même station.
Oui. Donc voilà, c'est une présence qui est là depuis toujours dans ma vie. Et puis c'est un des
agréable.
Premiers. Très agréable. C'est un meuble très agréable, très confortable et inspirant et ouais, c'est un stimulus. Et je crois que c'est aussi un des premiers jeux quand on a un poste à cassette et qu'on est petit et qu'on peut enregistrer et dire bonjour, alors bienvenue sur la radio et puis jouer à ça. Et c'est un jeu, c'est comme mon apprentissage de la musique, c'est un jeu qui devient une pratique et une pratique qui devient une discipline, quoi. Et donc je pense que la présence de la radio, elle vient de là dans ma pratique. Et puis en fait, moi j'ai un collectif qui s'appelle le collectif Cine. Et à un moment, on avait été séparés. On l'est toujours un peu comme ça, de manière
géographiquement éclatée, ou par les projets.
Géographiquement. Et il a fallu que j'accompagne un projet par ma présence alors que j'étais pas là. Et la cassette audio était un bon moyen. Alors d'abord, c'était le film de Robin Lachenal, Fin, un documentaire sur la fin du monde. Je pouvais pas y être et donc j'avais décidé, vu que ça allait être la fin du monde, j'ai décidé de faire la bande originale avant le tournage, puisqu'à la fin du tournage, ça devait être la fin du monde. Donc la bande originale était embarquée. Il le filmait en écoutant la musique. Et après, un atelier qu'on a monté à Bruxelles qui s'appelait De la Charge, où moi j'étais encore à Paris, et je leur envoyais des cassettes audio pour leur dire « Salut les gars !» Et je leur faisais des faux reportages, je leur faisais des fausses émissions, des fausses en fait.
Des vrais en fait.
Je peux rien dire, oui. Mais j'aime bien ce côté carton-pâte, un peu pas sérieux. Et puis après, j'ai continué pour moi, comme un journal, comme les cassettes audio. Donc là, j'en ai pas tant que ça, en fait, parce qu'il y avait des grands moments de creux. Mais l'autre jour, je me suis rendu compte que j'étais à la 114. Alors, j'aime bien faire les pochettes aussi.
114e cassette audio.
Ouais.
D'émissions de radio.
D'émissions de radio, de drafts musicaux, d'essais, de prises de son dans le réel, de plein de choses différentes. Parfois même des... Ouais, mais en tout cas, que des productions personnelles, il n'y a pas de la musique du monde.
Ça veut dire que cet album-là, Radio Contretemps, il est aussi une manière de raccrocher avec des pratiques enfantines ou des pratiques de joie pure comme ça, de première joie ?
Sans doute. Il y a un naturel qui vient de là, en tout cas. C'est une fois que c'est fait, on se rend compte qu'on l'a fait. Et ça n'a pas été pensé. Alors là, ce serait pas mal de sortir un disque avec 90%.
Oui,
de
ça
fun.
Sent pas non. Ça.
Donc je pense que ça vient de là. C'est une continuité d'une pratique de toujours.
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la radio ? Parce que là, on entendait par exemple la très grande joie de réussir à joindre quelqu'un.
Ouais.
Incroyable, Beyrouth, ça c'est fou, quel hasard.
Ouais,
Nous, on n'a plus autant de boulot à donner pour pouvoir joindre les gens chez eux dans leur machine. Techniquement, parce qu'on travaille beaucoup.
Je sais pas très bien. J'ai pas analysé le pouvoir que ça peut avoir ou le rapport que j'ai avec ça, mais on appelle ça radio. Peut-être qu'on appellera dans quelques décennies, on appellera plus ça radio, puisque c'est éclaté dans le temps avec l'internet et tout ça, mais. En tout cas, c'est la présence sonore et puis les paysages qui n'existent pas pour les yeux et qu'en creux, on propose et que chacun peut les colorier comme il veut.
Et par conséquent, qui finissent par exister. Par exemple, quand on a écouté plusieurs fois ce disque, eh bien, c'est comme si on avait véritablement un souvenir de concert où tout se calme, où il y a de la musique et il y a les stroboscopes qui arrivent. Ou alors, on sait exactement que sur un terrain vague, à un moment donné, il y a un son de système et il y a une ligne de basse et qu'elle fonctionne très bien puisqu'elle est vraiment très très bien faite pour ça. Ça devient des paysages réels d'une certaine manière, Flavien Berger.
Et ils sont, en tout cas, réels dans ma tête, fantasmés, parce que je les imagine comme ça. Cette histoire de basse sur le sound system, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc, c'est aussi des mémos pour moi d'aventures ou d'expériences à vivre. Mais je crois qu'il y a, il y a des propositions de fenêtres. Et à chacun de les illustrer comme il veut.
En parlant de la radio, vous dites finalement, c'est comme ma pratique de la musique. D'abord, c'était un jeu. J'ai appris en jouant, et puis c'est devenu quelque chose de, je ne sais pas si c'est plus sérieux, mais en tout cas de peut-être plus officiel.
Ouais.
Vous pouvez rappeler ça ?
On m'a proposé le solfège quand j'étais petit, mais c'était très dur et je n'ai pas compris ce qu'il y avait à faire là-bas. Je me souviens du conservatoire, mais j'ai rien appris en fait, parce que c'était comme l'école. Ça
n'imprimait pas.
Ça glissait pas, je ne comprenais pas le challenge ni le contrat. Donc je suis revenu à la musique tout seul plus tard par la technologie, par une console de jeux vidéo, un jeu vidéo qui était à la fois un jeu, mais en fait on pouvait enregistrer des morceaux et c'était un logiciel pour faire de la musique techno, trance, drum and bass. Et moi je faisais pas cette musique, donc j'utilisais ce logiciel pour faire un autre style de musique qui était mon style de musique. Je crois qu'il était une espèce de blues fantasmé. Je le voulais très organique, mais je n'avais que des samples très froids. Et à force d'essayer de trouver mon langage d'année en année, de sauvegarde en sauvegarde, de carte mémoire en carte mémoire, puis après d'enregistrement sur, on va beaucoup parler de différents médias, mais sur mini disques. Entre temps, j'étais passé par poser un poste de cassette devant la sortie haut-parleur de la télé pour enregistrer les morceaux. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant une petite dizaine d'années, sans vraiment le faire écouter autour de moi, je produisais de la musique. Je produisais une...
Vous cherchiez en tout cas des choses.
Ouais, j'essayais de trouver mon langage, c'est ça. Avec un outil qui était à apprivoiser. Et c'était pas par le biais ni piano, ni guitare, ni solfège, ni rythme, ni rien. C'était par des cases, des zones de couleurs, des banques de samples, des... Voilà. Et puis en fait, même au travers de petits haut-parleurs, c'était très, très, très amateur jusqu'à très longtemps. même à un âge poussé où j'aurais pu comprendre que les cartes son existaient, que les micros professionnels existaient. Et en fait, le moment où j'ai pu enregistrer ma voix a été très tardif. Et ça a été un tournant, parce que à partir du moment où on peut enregistrer sa voix, on peut enregistrer toutes les idées qu'on a dans la tête.
On revient à la radio, finalement.
Voilà, on revient à la radio. Et on revient aussi à ce momentum de, on a une mélodie, on veut que ce soit une guitare, mais on n'a pas de guitare, donc on le fait à la voix, et puis finalement on laisse la voix, puisque c'est finalement ce qu'on voulait faire, ou pouvait faire. Et la contrainte, ou laisser la limite de qu'est-ce que je fais avec cet outil, et comment je m'en empare, et comment ça devient une extension de moi au fil des années. Et puis un jour, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plein de musique, et puis que les gens me disaient, mais toi qui fais de la musique, tu veux pas faire de la musique pour ça? Ah, mais en fait, la société me définit comme ça. Puis une rencontre avec un label, sortir des disques, et puis un jour dire, ah, mais en fait, je peux vivre de ce truc-là que je fais. Et me présenter aux autres gens, qu'est-ce que tu fais dans la musique? Dans la vie, ben, je suis musicien. Et en fait, c'est vraiment une, j'ai fait des études, j'ai travaillé, mais ça a été un tunnel lumineux très, très cohérent et très continu.
Et dans votre voix, on a l'impression aussi très tranquille.
N'ayant pas d'attente par rapport à une... À le mot carrière me fait des frissons, j'aime pas trop. La carrière, c'est des trucs qu'on creuse. Et puis à la fin, quand il n'y a plus rien, on passe à côté. Donc j'ai jamais attendu de la musique de m'apporter une carrière ou un mode de vie ou une représentation. C'est plus quelque chose que j'essaye d'apprivoiser toujours, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Et donc c'est un terrain de rencontre et d'expérience constant, plus qu'un but à atteindre. Quelque chose qui doit être d'une certaine manière.
Et vous êtes parvenu à conserver ça? À n'avoir pas beaucoup d'attentes au regard de ce que c'est que la musique, de la manière dont ça peut façonner votre vie?
Ça dépend, il y a des cycles. Parfois, ça dépend, mais... Dans l'ensemble, je suis encore très surpris par quasiment tout. Et puis je rencontre des musiciens aussi, chose qui n'arrivait pas avant. Et c'est marrant de rencontrer des musiciens.
Oui, ça ajoute une variable à l'équation non négligeable.
Ouais.
La surprise, Pierre-Henri, justement. Oh.
Est-ce qu'il y a une limite dans votre connaissance de la machine? Y a-t-il des surprises pour vous dans la machine?
Oui, il y a des surprises et c'est ça qui est très intéressant, c'est que des fois, la machine peut quand même inventer, elle peut trouver des formules ou utiliser des paramètres tout à fait surprenants. On n'aurait peut-être pas pensé à telle combinaison sonore, mais ce n'est qu'un court instant, il suffit de le saisir et ensuite de s'en servir, de le répertorier, et ça devient un son nouveau, un son mère, un objet inouï qui deviendra plus tard un instrument en soi. Et cela dit, je pense que je peux aussi maîtriser la machine maintenant, puisque j'en suis à 22 ou 23 ans de recherche, je ne sais plus, dans ce domaine. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire, en fonction des œuvres. Il y a des œuvres très improvisées, il y aura même peut-être de plus en plus chez moi une recherche du son spontané ou du son aléatoire. Mais jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a une continuité dans mon travail qui est quand même une continuité d'écriture, de recherche formelle et de progrès à faire dans la technique. Pour vous répondre, je crois que maintenant, oui, je peux faire dire à la machine ce que j'ai envie, ce que je sens, ce qui passe en moi. Et c'est assez nouveau. Je crois que c'est vraiment depuis seulement deux ou trois ans, parce que je connais bien mes appareils, parce que je les ai mis au point, parce que peut-être qu'il y a un certain acquis.
1977, la voix de Pierre-Henri, diffusée 30 ans plus tard dans les greniers de la mémoire sur France Musique. Flavien Berger, c'est très beau, je trouve, de l'entendre parler des machines. Et quand on a eu la chance de rentrer dans sa maison, où, dans mon souvenir, c'était presque la cuisine, son studio, et puis il y avait des haut-parleurs dans le salon. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait qu'il était vraiment chez lui, avec les machines, ou dans la machine presque. Et quand il dit qu'il peut exprimer ce qu'il sent, on est très loin de l'idée d'une machine froide ou uniquement électronique, mécanique. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la manière dont vous en jouez, vous, des machines.
Je me souviens d'un autre passage, je pense, de cet entretien où il explique que le matin, il est réveillé par un prisme qui diffracte la lumière et balaye ses murs de couleurs. Et c'est comme ça qu'il commence la journée. Donc sa journée, elle est d'abord optique. Et c'est l'idée qu'en fait, la machine, elle n'est pas là pour en soi. C'est pas Hal, c'est pas une machine qui va décider de ce qu'on fait d'elle. C'est le monde extérieur qui rentre dans la machine et au travers d'elle, on fait des traductions, on fait des réinventions, on essaie de trouver des langages, on synthétise. La machine, c'est un outil. Et un outil, c'est magnifique.
C'est la première fois que je viens de comprendre que synthétiseur, c'est ça. C'est ouais. Synthétiser.
Ouais.
Chimique du...
Exactement, c'est refaire le même son que dans le réel. Donc on synthétise un son de violon. Donc on prend ce qu'il y a dans le son de violon, tant d'aigus, tant de fréquences ici, tant de grattements de machin, et puis on le refait. Mais avec d'autres outils.
Comme la paillasse de laboratoire dont vous parliez tout à l'heure, finalement.
Ouais. Il y a une poétique là-dedans, parce que même si la machine, elle n'est pas autonome, entre guillemets, elle a des choix, elle fait des choix. Il y a un élément que j'aime beaucoup qui est le stretch, le time stretch. Donc ça, c'est assez, dans la poétique du temps, c'est hyper agréable de se laisser rêver là-dedans, parce que l'ordinateur, on lui donne un son, un bonjour, et on lui demande de faire ce bonjour durer 24 heures. Mais sans le ralentir, c'est-à-dire il devient pas grave quand on ralentit un disque, il dure 24 heures.
Donc c'est-à-dire, alors, donc il fait pas genre bon...
Il fait pas bonjour, il fait... Sur les mêmes fréquences que bonjour, mais pendant très longtemps.
Donc le B, très très longtemps.
C'est B. Ouais, donc ça devient un bourdon. Et là, c'est la machine qui décide comment elle va, quelle matière elle va créer. En fait, elle crée plein de petites boucles, et dans ces boucles, elle doit mettre de l'intention. Et c'est elle qui décide. Et ça, c'est très très beau, parce que du coup, c'est un travail en collaboration, main dans la main, avec les algorithmes, avec les systèmes de calcul.
Oui, c'est ça, c'est très 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 mathématique, en fait, parce que c'est une conception du temps qui est une conception découpée du temps.
Ouais.
Tout à l'heure, vous disiez, quand j'ai appris par Musique 2000, c'est ça ?
Oui.
À faire de la musique, j'ai appris par des cases.
Oui.
Donc en fait, c'est une manière d'appréhender le temps par sa plus petite découpe, ou par sa découpe la plus large, en fait.
Ouais. C'est une je sais pas très bien d'où ça vient, mais la portée, elle devient grille. Et dans ces cases, il y a d'autres cases, et dans ces petites cases, il y a d'autres cases. Ça devient un territoire, en fait. Ça devient des cases voisines les unes des autres, dans lesquelles il y a des différents mondes. Parce que on peut charger, je disais d'intention tout à l'heure, mais on peut charger aussi de comme un programme qu'on charge. Et en ça, la machine, elle est le reflet de ce qu'on lui demande de faire, et elle est le reflet de la direction qu'on veut prendre. Et elle nous surprend. L'accident est un des éléments premiers, je pense, moi, dans ma pratique en tout cas.
Et Pierre-Henri disait, finalement, il y a des sons qui deviennent des sons mères et qui seront plus tard des cartouches que je vais pouvoir jouer autrement, constituant ma propre banque, en fait. Parce qu'il y a eu un accident, parce que je me suis trompée, parce que je me suis fait surprendre. Mais ce qui est beau aussi dans cet archive de 1977, c'est qu'il dit « j'ai fait les machines à ma mesure ». Comme un t-shirt qui nous va bien,
ouais.
Quoi.
Ouais, une extension, c'est ça. Il y a de ça qui est beau. On parlait des musiciens tout à l'heure. C'est assez agréable de regarder au-dessus de l'épaule d'un confrère et de regarder, quand il s'agit de machines ou même de chaînes d'effets, de pédales d'effets, ça, on peut penser aux pédales de guitare et tout ça, quel chemin il a pris, qu'est-ce qu'il a décidé de faire passer dans quoi, et comment il fait communier deux choses, et quelle boîte, en fait, quelle case, encore une fois, qu'est-ce qu'il a choisi de coupler, d'enchaîner. Et c'est très, très excitant de voir une valise qui s'ouvre et de dire « Ah, toi, t'as ça, plus ça, plus ça, ouais. Ah, tu fais ça comme ça, toi, d'accord. Ah, ouais. »
Tout à l'heure, vous disiez que vraiment, le solfège, vous n'aviez pas compris, et que du coup, de cette connaissance, entre guillemets, technique ou théorique de la musique, vous étiez complètement passé à côté. Mais maintenant, vous maîtrisez une autre forme de connaissance, alors, Flavien Berger. Une autre manière d'appréhender très précisément la musique.
Il y a toujours un complexe. Hein. Il y aura toujours le complexe de « oui, mais... » quand tu me parles de gamme diminuée, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ou comment, quand on me demande une note, je suis obligé de compter les notes sur le piano. C'est très complexant, surtout parce que ça ralentit la communication. Mais voilà, c'est souvent le bon équilibre qu'il faut trouver entre intuition et entre langage ou connaissance, que l'un n'empêche pas l'autre, et ainsi de suite. Mais
et le chant, dans ces cas-là, c'est pas un outil de rapidité?
Complètement. Le chant, c'est mon premier instrument, mon premier outil. Et c'est, en fait, ça résonne. C'est-à-dire que ça résonne en moi, donc je peux me faire confiance sur « Ah oui, je me souvenais que ça résonnait comme ça ». On parle vraiment de corps qui vibre. Je me souviens, il a fallu que je joue des morceaux avec d'autres musiciens, et pour me rappeler, dans la masse sonore qu'est la scène et qu'est le live, je retrouvais la note et je savais que c'était celle-ci. Je ne savais pas comment elle s'appelait, je ne savais pas où elle se plaçait, mais je ressentais le souvenir physique de la vibration de ce moment-là.
Qui n'est que ça, hein,
qui n'est que ça. Bien sûr.
Par ailleurs.
Elle vibre d'une certaine manière.
Et c'est toujours comme ça. Le temps passant, ça reste votre patron, au sens de la mesure, quoi.
C'est drôle, je fais jamais ça, je suis venu avec mon carnet.
Très beau, parce
que. Et à la fin du carnet, j'ai une liste qui s'appelle Life. Et dedans, il y a quand même à apprendre le solfège. Il y a au moins pouvoir juste savoir que quand je fais ça, ça s'appelle comme ça, et que je puisse le noter rapidement sans que je me dise « Ah, mais on ne met pas ça après ça, c'est pas
dans un souci de communication avec les autres ?
En fait, dans un souci surtout de mémoire et de sauvegarde. C'est-à-dire que il m'arrive encore de composer des choses, souvent avec des accords sur des pianos, et de l'oublier. Je vais vous remontrer ma manière aujourd'hui de sauvegarder la musique, c'est ça. C'est la même manière que j'avais.
Donc ce sont des claviers de piano qui sont dessinés, numérotés, et des touches, qu'elles soient dièse ou pas, qui sont coloriées en vert.
au crayon de couleur, quoi. Donc, et à un moment où.
Ça fera des hyper belles archives.
Ouais, mais c'est vraiment par défaut. Et j'ai retrouvé les premières fois, quand j'ai acheté mon premier synthétiseur, c'était noté pareil. Donc. Je veux pas rester sur le même système tout le temps. J'ai envie de voir ce que ça peut ouvrir aussi comme nouveau langage.
De connaître la musique plus théoriquement.
Ouais, de pouvoir appeler un accord de son nom, que l'humain a décidé d'appeler comme ça.
J'ai du mal à imaginer que l'on est déjà aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rappelé. Et je n'ai trompé que la nuit. J'ai du mal à imaginer que l'on est déjà aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rappelé. Et je n'ai trompé que la nuit.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
J'ai du mal à imaginer que l'on est déjà aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rappelé.
Non, je plaisante.
Et je n'ai trompé que la nuit.
Trompez pas, c'était bien ma voix.
Moi j'aime beaucoup aussi la vraie chanson française traditionnelle, mais l'arrivée de la pop et des métissages, de l'hyper-métissage avec les rythmiques anglo-saxonnes, ça a apporté beaucoup de choses. Le swing de Trenet, le rock de Boris Vian, la pop anglaise de Françoise Hardy et de Gainsbourg. Tout ça, ça a beaucoup fait bouger les choses. Ça a décomplexé beaucoup de musiciens. Enfin, disons que des musiciens comme ça ont préparé le terrain pour des gens comme moi et pour des gens de la génération d'aujourd'hui. À savoir que on n'a pas besoin de faire de la littérature quand on fait une chanson. Il peut arriver que le texte soit lisible sans la musique et qu'il y ait une forme littéraire. Mais globalement, c'est pas ça qui se passe. On est touché des fois par des bluettes aux larmes, parce que tout d'un coup, l'émotion est juste. Et pas parce que tout d'un coup, le texte est vraiment bien foutu. La chanson populaire, c'est l'émotion pure. Et il n'y a aucune honte à ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de plaisir coupable.
C'est bien quand même de terminer par ça, hein, globalement dans la vie. Il n'y a pas de plaisir coupable. Ouais. 2017, c'est Étienne Dao, vous l'avez reconnu. Flavien Berger, juste après un extrait de votre disque Radio Contretemps. Il est au micro de Mathieu Conquet dans les grands entretiens à voix nue diffusés sur France Culture. Et il dit que le terrain a été préparé pour lui par le swing de Trenet. D'après ce qu'on comprend, parce que ça le libère d'une autre chanson française plus classique qui était probablement, j'ai pas écouté l'entièreté de l'entretien, mais du côté de Brel, Barbara, voire une chanson réaliste des années 30 où le texte était peut-être davantage devant. Est-ce que vous diriez pareil ?
Complètement. Ouais, le cycle, c'est un grand sujet, le cycle, mais ça se répète. Sans Étienne, on n'aurait pas, nous, notre génération, la liberté de justement... Et puis, ce qui est drôle, c'est la liberté aussi de revenir à des styles plus anciens. Enfin, de se dire qu'il n'y a pas de mauvais choix esthétique que celui qui... Il disait tout à l'heure, on peut être touché par l'émotion d'une bleuette. Et en fait, cette émotion, au-delà qu'elle soit juste, je pense qu'elle résonne. Elle résonne avec quelqu'un à un moment dans sa vie, dans une situation donnée, dans un territoire. Moi, j'ai compris il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait être attaché à des morceaux et qu'être rappelé par eux. On traverse une rue et là, il y a un morceau qui résonne et ce morceau nous rappelle tout un pan de notre histoire, lié à quelqu'un, lié à un moment. Et on ne pensait pas que ce morceau pouvait nous émouvoir, mais
c'est
en fait, maintenant que ce temps, par exemple, est révolu, ou maintenant que les choses sont plus pareilles, ben, ce morceau, c'est ce qui nous reste, quoi. Et ça peut être une bachata, ça peut être un morceau de trance, qui résonne, il s'est calé là, à ce moment-là, dans notre vie. C'est pour ça que la musique, elle ira là où elle doit aller, elle suivra le courant vers les oreilles qui doivent les écouter, quoi. Et le temps fait qu'il n'y a pas de mauvaise musique, comme il n'y a pas de mauvais film, en fait. Il y a une musique, à un certain moment, qui a été faite pour des drôles de raisons, mais dont on peut s'emparer des siècles plus tard. Voilà.
En vous écoutant, je me rappelle qu'une très chère amie à moi qui travaille avec de très vieilles personnes touchées par la maladie d'Alzheimer m'a souvent raconté des scènes où il n'y a plus rien qui bouge, plus rien ne semble pouvoir effleurer du langage, il n'y a plus rien qui sort, et une chanson qui date d'il y a 70 ou 80 ans va les faire se lever et raccrocher avec des wagons qui pensaient être complètement derrière eux. Donc c'est vrai que la puissance de ça, elle est parfois un peu négligée, et en réalité elle est extrêmement puissante pour nos vies d'humains. Mais est-ce que vous faites comme Étienne Dao, c'est-à-dire il n'y a pas de plaisir coupable, vous écrivez ce que vous voulez, vous composez comme vous voulez, vous n'avez pas de surmoi trop méchant musicalement, Flavien Berger ?
Ouais, c'est même pas une question que je me pose. Je me suis jamais censuré, ou je suis jamais allé dans une direction voulant aller dans l'autre. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, que je peux dire sur mes textes, c'est que je dis pas de gros mots. Je suis entouré de neveux et nièces et je fais pas la musique pour eux, mais j'ai envie qu'ils l'écoutent. Donc je crois que mon plus gros mot, c'est vomi, qui est pas vraiment un gros mot.
Non, qui est quelque chose d'organique, tout à fait. Ok.
Et il est turquoise en plus. Ça, c'est ce que je pourrais dire ça. Et c'est pas que je me censure, mais j'ai pas forcément envie de dire des gros mots. Et puis.
Mais aussi musicalement, je veux dire, vous allez dans les directions exactement que vous voulez, vous ne vous souciez pas. Il me semble que ça fait partie aussi de, puisqu'on parlait de cycles et de générations, il y a eu des générations de musiciens en chanson française qui n'auraient jamais fait des petits synthés ou des petits des petites mélodies à trois notes avec des histoires de filles qu'on n'a jamais rappelées. Jamais, ça le faisait pas du tout, c'était pas possible.
Ouais. Non, on a la chance là, on est dans un temps éclaté, dans une esthétique multivers. Je crois que les années 80 ont... Pour moi, j'ai une théorie sur les années 80. C'est que
allons-y.
On a ouvert un portail temporel dans les années 80 et on continue de découvrir des choses qui se sont passées dans les années 80, comme si c'était un temps qui, comme un ressac, nous reproposait régulièrement des nouvelles choses. C'est pas possible. Normalement, on va pas continuer à découvrir pendant des siècles et des siècles des trucs qui ont été faits pendant cette décennie-là. Donc je pense qu'il y a des mecs du futur qui retournent dans les années 80, qui la réinventent constamment.
Et qui nous font croire que c'était fait à ce moment-là,
ouais. Mais en fait, c'est fait dans le futur. Voilà, donc...
Ah oui, quand vous dites que la théorie du cycle est quelque chose d'important pour vous, c'est très important pour vous.
Tout est permis, je crois. Ouais.
C'est plutôt dans les années 70 qu'on va aller maintenant.
Ici, la terre colle et pue. La nourriture est indécente.
Aucune pudeur, aucun art. Le ciel, c'est de l'air.
Je vois qu'on se comprend.
On se reverra fatalement.
Je vous prêterai quelques livres érotiques très rares. Mais peut-être ça ne vous intéressera pas.
Bien sûr que si. J'en ai moi-même de très intéressants.
J'aimerais vous inviter à jouer au tennis chez moi. Mais il se peut que vous méprisiez le sport.
Bien au contraire, je joue 3 fois par semaine, je serai ravie.
Bien sûr. Et je vous présenterai à ma femme. Je suppose qu'elle vous plaira beaucoup, salaud. Écoutez, prenez-la, mais que je ne vous revoie plus jamais, fumier. C'est compris, sinon je vous bute. D'être né, le chemin est si beau, du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau. Le monde est un jardin, tenons-nous par la main. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. Nous nous promènerons dans l'odeur du goudron. Dans les papiers qui traînent, blancs comme des migraines, blancs comme des mâles blancs près des chantiers dormants. Beignets de frites et de poulet, le chemin est si beau, du berceau au tombeau. Nous irons voir flamber la ville tuméfiée. La vie est une foire, j'ai mis ma robe en moire. Mon frère est un raté car il est décédé. Meublés, nous aurons des mégots au fond du lavabo. À l'aube, les blessés cesseront de tousser. Nous aurons un bébé bébé, nous l'entendrons pleurer comme de l'eau qui boue. Les enfants sont tous fous. Allons-nous promener, quel bonheur d'être né. Le chemin est si beau, du berceau au tombeau. J'ai perdu mes lunettes, ça va être la fête. Les soldats sont partis, couverts de confettis. Le temps est un bateau, la terre est un gâteau.
Voilà, le cycle du temps. Le temps est un bateau. Flavien Berger, bon, c'est l'une de mes chansons préférées au monde. Le goudron à Resquier-Fontaine qu'on entendait précédemment dans un enregistrement de 1973 à la Maison de la Radio, au studio 102, avec Areski dans un sketch qui mime le couple bourgeois, mais ça peut se terminer par un meurtre. En écoutant l'intro, donc The Art Ensemble of Chicago, vous avez dit, bon, ça, c'est l'horizon. Ce genre de chanson, c'est l'horizon. Ça veut dire quoi?
Ah,
c'est un horizon qui est derrière vous, hein.
Ouais, ouais.
1970.
On revient à nos histoires de trous de verre. C'est l'exigence, quoi. C'est l'horizon parce que c'est quelque chose qui est inatteignable, parce que c'est on peut pas. Enfin, c'est sorti comme ça, mais c'est super émouvant de et puis de retrouver. C'est drôle, elle fait un ternaire et donc il y a une manière de poser sa voix qui est annonciateur de plein de choses qui va se passer ensuite. Je l'expliquerai pas plus que ça, cette histoire d'horizon.
Bah, notamment peut-être pour poursuivre sur cette idée de manière de groover presque de Brigitte Fontaine, qui est extrêmement proche de choses très belles qui peuvent se faire aujourd'hui et un peu avant même dans le rap et dans le hip-hop de manière générale, qui est aussi... On a beaucoup parlé de vous. Vous disiez tout à l'heure que, au départ, Flavien Berger, quand vous faisiez de la musique, vous faisiez un blues fantasmé. On a dit aussi de la variété électro, etc. Et moi, j'arrête pas d'entendre un fond très fort et très présent de hip-hop, ce rapport au son, quoi. Y compris dans la recomposition à partir de matières existantes. Comme si, je ne sais pas, mais comme si c'était présent quand même dans votre formation d'oreille, dans vos amours musicaux.
Complètement. J'ai fait de la musique, je pense, en partie aussi parce que j'avais un grand frère qui en écoutait passionnément, avec le classique de l'amateur de hip-hop, avec deux MK2, une table de mix et des bacs à disques, et une bibliothèque du père de jazz à sampler. Donc cette culture du sample, elle est là depuis toujours.
Donc pour rappeler quand même que la culture du sample, du jazz, c'est une des bases des premières musiques qui accompagnaient le flow des rappeurs américains.
Ouais, exactement. Et sampler n'importe quoi, sampler une ligne de basse par-ci, une caisse claire par-là, puis sampler une voix. Et donc dans ma génération, il y a cette désinvolture à piquer la musique des autres juste pour ce qu'on aime, à découper, à faire des collages. Et puis dans le texte, je crois que mes premiers poèmes, en fait, c'était peut-être des trucs qui se rapprochaient de rap, des rap adolescents, mais le rap et le hip-hop, pour moi, c'est un mode de vie vraiment qui appartient à ceux qui peuvent le vivre et doivent le vivre. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai mon mode de vie inventé.
À inventer ou inventer déjà ?
À inventer. Mais le rap est là. Donc, on est dans un monde de hip-hop. On écoute, c'est la musique qui est au sommet des charts. Donc c'est la musique la plus populaire. Donc c'est la musique très répandue dans le monde. Et puis moi, j'étais entouré de ça dans ma culture de collège, de lycée. C'était la musique qu'on écoutait. Moi, j'ai acheté des disques de rap à la Fnac, et ça a été une super école, parce que c'est une école qui est très didactique. Là, c'est la voix, là c'est le texte, là c'est l'instrumental, là c'est la production. Et moi, je crois que je vois encore les choses comme ça. J'ai une partie, c'est bicéphale. Il y a un côté qui s'attache à l'écriture et à l'expression par les mots. Et puis, il y a un côté qui s'attache par l'expression par les sons. Et je les ai jamais reliés, quoi. C'est deux parties d'une sphère.
Et alors, est-ce que c'est proche aussi sur scène? Parce que, par exemple, quand on va voir un concert de rap, parfois, ça peut être un peu décevant. Mais il peut y avoir juste une table de mixage, un DJ qui est posé derrière, et puis un, voire 10 types qui chantent devant ou qui rappent devant. Vous, ça se passe comment, un concert de Flavien Berger? Vous avez du monde autour de vous?
J'ai des fantômes. autour de moi. Donc c'est du monde, mais ils n'existent pas. Je suis accompagné par...
Ou ils existent,
par
on
des,
les voit pas.
Ou ils existent... Non, on les voit, mais ils n'existent pas. Ou à partir du moment, est-ce qu'un robot existe? Est-ce qu'un spectre existe? Je suis entouré de danseurs, de capes qui dansent avec moi, qui symbolisent ce qu'on veut, la rotation de la tournée, la rotation d'un disque, la présence de ceux qu'on ne voit pas mais qui accompagnent le live. Et moi, je suis tout seul. J'ai un côté des machines qui jouent, des boucles qui me permettent de structurer les morceaux un petit peu comme je veux, et de l'autre côté des synthétiseurs qui me permettent tant bien que mal de faire des solis ou de m'accompagner lorsque je chante en piano-voix. Et on parlait de ça, mais l'intérêt un petit peu pour moi des concerts de rap, c'était les moments de freestyle, les moments d'improvisation, le lâcher prise, le saut sans parachute. Il va falloir que je retombe sur mes pattes à un moment parce qu'il y a une rime. À un moment, la mesure se termine, il faut que j'enchaîne l'autre, il faut que j'ai le bon nombre de pieds, et il faut que ce que j'ai dit à la fin ait du sens ou touche. Et je fais beaucoup ça,
dans le concert, vous voulez dire?
Dans mes concerts, il y a des moments, et d'ailleurs, parfois, ça peut être surprenant parce que je le fais à la place des couplets que les gens sont venus voir. Parfois parce que je me trompe, et parfois parce que j'ai quelque chose à dire, et je sens que la porte est ouverte, que le rideau s'est un petit peu levé, et que je peux voir l'horizon, quoi, à ce moment-là, et en parler. Ça aussi, je pense que l'idée d'improviser rythmiquement en chantant, ou d'improviser en chanson et tout, ça vient, on le fait tous les jours. On peut chanter en sortant ses poubelles, et puis c'est la chanson de On sort les poubelles, mais moi je l'ai aussi entendu comme ça dans les freestyles. Je regardais des freestyles de rappeurs qui étaient très forts en ça, et beaucoup de rappeurs aujourd'hui, les grands rappeurs, ceux qui vendent des millions et des millions de disques, sont des mecs qui n'écrivent plus, ils ont tous leurs textes. Je pense à, je sais pas, à Jay-Z ou des mecs comme ça, ils ont, que j'écoute pas forcément d'ailleurs, mais ils ont tous leurs textes dans leur tête, et ils arrivent dans un studio et tout le monde est abasourdi parce qu'ils ont une carte mémoire de texte dans la tête, quoi. Et donc c'est carrément, on parlait d'extension. Maintenant, l'improvisation, le fait de retenir des textes, de trouver les meilleurs trucs et tout, c'est carrément maintenant un élément du rap, j'ai l'impression.
Et ça, c'est une vieille machine. Se souvenir des choses. On parlait d'extension pour les très nouvelles machines qui deviennent des extensions pour l'expression du musicien. Mais se souvenir des textes, en fait, c'est quelque chose d'ancestral. Être capable de raconter des histoires. Mais c'est intéressant de voir que finalement, c'est ça qui est regardé, y compris par des jeunes gens de 13 ans et admiré. Quelqu'un qui va être capable de poser comme ça pendant 10 minutes, sans feuilles, sans rien lire.
Mais se souvenir des textes, c'est souvent, il arrive que ce soit des textes écrits par les autres. Là, on est dans une concrétion où c'est à la fois écrit par soi. En plus, on parle un peu de non-fiction où on se livre sur son présent. Et en plus, on l'a dans la tête, quoi. Mais, le cerveau, ça, c'est un sujet, la machine du cerveau. Ça sera un sujet pour moi bientôt, je pense.
Tout à l'heure, vous disiez que le hip-hop, c'était un mode de vie et que vous aviez un mode de vie à inventer aussi. Mais quelle place tient la tournée? Pour en revenir au rond, oui. dans ce mode de vie-là, Flavien Berger, ça ressemble à quoi?
Assez nouveau pour moi, parce qu'on est plein maintenant, enfin on est 7, dans un van. Donc ça ressemble à un confessionnal presque, une cellule roulante sur des routes où on parle de nous, on se retrouve. Ça ressemble à un rendez-vous avec des gens qui sont maintenant mes amis, ça ressemble à quelque chose de moins solitaire qu'avant. Et j'aime beaucoup ce rapport à la discussion qu'il y a maintenant dans ma tournée avec ceux qui m'accompagnent pour le son, pour la lumière, pour la scénographie, pour la régie, pour le label, pour le tourneur. Tout ça, c'est des cellules de discussion. Et en fait, ça fait vachement de bien d'être enfermé avec des gens et de ne faire que parler. C'est très stimulant. Et puis après, on arrive au concert et puis on s'occupe de préparer un spectacle le mieux possible pour les gens qui viennent le voir.
Ce serait un peu comme la radio du van, quoi. Il y a quelque chose qui se dit de trajet en trajet dans cette, dans cette bande-là. Dans
ce complet à dire, attends, t'en étais où? T'avais eu l'élément où je t'avais raconté ça ou, ah oui. Alors, je reprends et c'est super. C'est des histoires. Moi, on parlait de la musique et tout ça. Le conte est hyper important aussi, je pense, dans mon enfance. Donc, savoir se raconter des histoires, prendre du plaisir à ne pas perdre de détails et que ce soit, réjouissant, c'est super important pour moi aussi.
Et c'est comme ça que j'introduisais justement ce disque-là. Je disais, on nous dit souvent que les choses sont faites pour nous et juste pour nous. Et il me semble que avec Radio Contretemps, il y a peut-être cette illusion, évidemment cette illusion Flavien Berger, mais qui fonctionne, qui est, c'est à nous qu'on raconte. Et ça n'est qu'à nous qu'on raconte comment pourraient être les choses, à quoi pourrait ressembler cette chanson, qu'est-ce que c'est que cette discussion qu'il n'y a pas lieu entre un homme et une femme. Bref, la puissance de ce que c'est que raconter des images, raconter des choses qui, par la voix, par le son, par le verbe, existe.
Bah, la musique, elle appartient à celui qui l'écoute. J'ai découvert ça aussi avec cette tournée. Vous me demandiez qu'est-ce que c'est la tournée. C'est aussi rencontrer le public pour la première fois, parce que j'ai des disques à signer, quoi. Donc je m'assois et puis il y a des gens qui attendent et qui me disent bonjour. Alors moi, mon rapport avec ce morceau, c'est ça. Mon histoire avec cette chanson, c'est ça. Avec votre album, c'est ça. J'ai rencontré souvent des couples et je me rends compte à quel point c'est... Ça s'imprègne, ça s'immisce dans la vie des gens et que ça joue un rôle comme tous les autres trucs, hein, mais que ça a un rôle dans la vie des gens. Et je pense qu'il y a de ça aussi dans Radio Contretemps. Quand je m'adresse à quelqu'un, cette personne, elle m'a écouté, elle me connaît par son prisme. Donc je m'adresse à elle parce qu'elle le sait, elle le sent, je pense. Et je m'adressais vraiment à des gens à la base. C'est adressé à mes proches. Donc,
comme quoi ça marche, quand on s'adresse sincèrement même à une seule petite personne, après on peut faire circuler.
Je suis super content de parler de ce disque en fait, c'est la première fois que j'en parle vraiment.
Ah oui, c'est vrai que c'était sans promo jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Flavien Berger.
Merci beaucoup, je suis très content d'être venu.
Radio Contretemps, c'est donc ce disque sorti sur Pan European Records. On mettra toutes les dates, mais on peut juste dire au passage, allez le 6 novembre au hasard à Lyon et le 2 et 3 décembre au Casino de Paris. Au son, c'était Jean-Frédéric, à la réalisation Philippe Baudouin, par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Lucie Riandet et Marianne Chassor. Dans un instant, c'est le journal de 22h sur France Culture. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Très belle soirée.
Il faut
super nuit. D'à peu près 6 minutes. Et il n'entendait pas. On était quelques-uns. Faut penser aux voisins. C'est au voisin.